Chapitre 12. Guinica l'attendait dans la petite gare routière bondée, vêtue d'une mini-jupe et d'un bustier qui lui couvrait la poitrine mais pas le ventre, prête à l'accueillir et à lui faire connaître la véritable Amérique. Elle avait maigri et elle était deux fois plus mince qu'autrefois, et sa tête paraissait plus grosse, perchée sur un long cou qui rappelait vaguement un animal exotique. Elle tendit les bras comme pour encourager un enfant à s'y précipiter, riant, criant « Ifemsko! Ifemsko !» Et Ifemelu se retrouva brusquement ramenée en arrière, au lycée. Une image de filles bavardant dans leurs uniformes bleus et blancs, des bérets de feutre sur leur tête, agglutinés dans le couloir de l'école. Elle serra Guinica dans ses bras. La façon presque théâtrale dont elles s'étreignirent s'écartèrent l'une de l'autre pour s'étreindre à nouveau, lui amena étonnamment les larmes aux yeux.
« C'est donc toi ?»
dit Guinica en gesticulant, faisant tinter les nombreux bracelets en argent autour de son poignet.
« C'est donc bien toi !»« Et toi, quand as-tu cessé de manger pour ressembler à un hareng sourd ?»
demanda Ifemelu. Guinica partit d'un éclat de rire, saisit la valise et se dirigea vers la porte.
« Allons-y, je suis mal garée. »
La Volvo verte était à l'angle d'une rue étroite. Une femme, en uniforme à l'air rébarbatif, carnet de contravention à la main, s'avançait à grands pas dans leur direction quand Guinica sauta dans la voiture et démarra.
« Pile à temps !» dit-elle en riant.
Un sans-abri vêtu d'un t-shirt malpropre, poussant un caddie chargé de paquets, s'était arrêté près de la voiture comme pour se reposer un instant, l'œil fixé dans le vide, et Guinica lui jeta un regard en s'engageant lentement dans la rue. Elles roulèrent avec les vitres baissées. Philadelphie avait l'odeur du soleil d'été, de l'asphalte brûlant, de la viande qui grillait dans les camions cuisine garés au coin des rues, des étrangers et étrangères à la peau brune tassés à l'intérieur. Ifemelu finirait par aimer les sandwichs grecs que vendaient ses camions, les galettes, l'agneau et la sauce qui en dégoulinaient, comme elle en viendrait à aimer Philadelphie elle-même. La ville était bien moins intimidante que Manhattan. Elle était intime sans être provinciale, une ville qui pourrait encore vous paraître aimable. Ifemelu vit des femmes sur les trottoirs à la sortie de leur travail qui allaient déjeuner chaussées de baskets, preuve de la préférence typiquement américaine pour le confort plutôt que pour l'élégance. Et elle vit des jeunes couples qui se tenaient par la main, s'embrassant de temps en temps comme s'ils craignaient, en dénouant leurs mains, de voir leur amour se dissoudre, se fondre dans le néant.
« J'ai emprunté la voiture de mon propriétaire. Je ne voulais pas venir te chercher dans mon épave roulante. Je n'arrive pas à y croire, Ifemsko. Tu es en Amérique ?»
dit Guinica. Elle avait une beauté étrange, métallique, avec sa silhouette émaciée, sa peau olivâtre, sa courte jupe qui s'était relevée, couvrant à peine son entrejambe, ses cheveux archi-raides qu'elle ramenait sans cesse derrière ses oreilles, avec des mèches blondes brillantes au soleil.
« Nous entrons dans University City. C'est là que se trouve le campus de Wilson, possiblement, tu sais. Nous pouvons d'abord aller visiter l'université et puis nous irons chez moi, en banlieue et ensuite chez une amie. Elle organise une petite soirée de filles. »
Guinica s'était remise à parler l'anglais du Nigeria, une version datée, dépassée, voulant prouver qu'elle n'avait pas changé. Elle était restée en contact au cours des années avec une loyauté sans faille, téléphonant et écrivant des lettres, envoyant des livres et des pantalons informes qu'elle appelait des slacks. Et maintenant, elle disait « Possiblement, tu sais ?» Et Ifemelu n'avait pas le cœur de lui dire que personne ne disait plus « Possiblement » de nos jours. Guinica racontait des anecdotes à propos de ses premières expériences en Amérique comme si elles étaient pleines d'une sagesse subtile dont Ifemelu pourrait profiter.
Si tu les avais vus rire de moi au lycée quand j'ai dit que quelqu'un m'avait baisé, parce que baiser veut dire faire l'amour, et j'ai dû expliquer qu'au Nigeria, ça signifie se faire avoir. Et peux-tu croire que métis est péjoratif dans ce pays? Quand j'étais en première année à l'université, je racontais à un groupe d'amis que j'avais été élue la plus jolie fille à l'école au Nigeria. Tu te souviens? Je n'aurais jamais dû gagner. C'est Zainab qui aurait dû gagner. C'était uniquement parce que j'étais métisse. C'est encore pire ici. Il y a des trucs que vous disent les Blancs que je ne supporte pas. Mais quoi qu'il en soit, comme je leur disais que chez moi, tous les garçons me couraient après parce que j'étais métisse, ils ont répliqué que je me dévalorisais. Alors maintenant, je dis « biracial ». Et je suis censée me sentir insultée quand quelqu'un dit « métisse ». J'ai rencontré ici une quantité de gens qui ont des mères blanches et ils ont plein de problèmes et je ne savais même pas que j'étais supposée avoir des problèmes avant de venir en Amérique. Franchement, si quelqu'un veut avoir des enfants biraciaux, qu'il le fasse au Nigeria. Bien sûr, là où tous les garçons courent après les métisses. Pas tous les garçons, soit dit en passant. Guinika fit la moue. Obinze ferait mieux de se grouiller et de venir aux États-Unis avant que quelqu'un t'embarque. Tu sais que tu as le genre de corps qu'ils aiment par ici? Quoi? Tu es maigre avec de gros seins. Oh, s'il te plaît, je ne suis pas maigre, je suis mince. Les Américains disent « maigre ». Ici, « maigre » n'est pas péjoratif. C'est pour ça que tu t'es arrêté de manger. Tout ton cul a disparu. J'ai toujours voulu avoir un cul comme le tien, dit Ifemelu. Tu sais, j'ai commencé à perdre du poids juste après mon arrivée. J'étais presque anorexique. Les gosses dans mon lycée m'appelaient la grosse. Quand quelqu'un chez nous dit « tu as maigri », c'est une critique. Ici, quelqu'un te dit que tu as maigri et tu dis merci. C'est différent, voilà tout, dit Guinika, avec un peu de nostalgie, comme si elle aussi était une nouvelle venue en Amérique. Dans la soirée, Ifemelu regarda Guinika dans l'appartement de son amie Stéphanie porter une bouteille de bière à ses lèvres, un flot de paroles jaillissant de sa bouche avec un fort accent américain, et elle s'étonna qu'elle soit devenue si semblable à ses amies américaines. Jessica, l'américano-japonaise, une jolie fille pleine de vie qui jouait avec la clé ornée de l'emblème de sa Mercedes, Teresa, à la peau claire, qui riait aux éclats et portait un diamant à l'oreille et des chaussures minables et usées, Stéphanie, sino-américaine, aux cheveux vaporeux, coiffée en un carré qui s'incurvait vers le menton, qui, de temps en temps, sortait un paquet de cigarettes de son sac monogrammé et allait fumer dehors. Harry, couleur café, les cheveux bruns, vêtu d'un t-shirt moulant, qui rectifia « Je suis indienne, pas indienne-américaine », quand Guinika lui présenta Ifemelu. Elles riaient toutes des mêmes choses et s'exclamaient « Génial !» en chœur. Leur numéro était parfaitement au point. Stéphanie annonça qu'elle avait de la bière de fabrication maison dans le réfrigérateur et tout le monde entonna « Génial !» Puis Teresa dit « Puis-je avoir de la bière normale, Steph ?» avec la petite voix de quelqu'un qui craint d'être grossier. Ifemelu resta assise dans un fauteuil isolé, au fond de la pièce, à boire un jus d'orange et à les écouter parler. Cette société est une horreur. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'il y a tellement de sucre là-dedans. Internet va totalement changer le monde. Elle entendit Guinika dire « Saviez-vous qu'ils utilisent des os d'animaux pour faire des pastilles à la menthe ?» Et les autres s'insurgèrent. Il y avait des codes que Guinika connaissait, des règles de conduite qu'elle maîtrisait. Contrairement à tante Uju, Guinika était arrivée en Amérique avec la facilité d'adaptation et l'aisance de la jeunesse. Les règles culturelles s'étaient infiltrées sous sa peau et désormais, elle allait au bowling, savait tout sur Toby Maguire et trouvait répugnant de tremper deux fois de suite son bâtonnet de légumes dans la sauce. Les bouteilles et les canettes de bière s'empilaient. Elle se prélassait toute langoureusement sur le canapé et le tapis, tandis que de la chaîne Ifi jaillissait du heavy rock qui n'était pour Ifemelu rien de plus qu'une cacophonie. De toutes, Teresa était celle qui buvait le plus vite. Elle faisait rouler chaque canette de bière vide sur le plancher et les autres riaient avec un enthousiasme qui étonnait Ifemelu, car elle n'y trouvait rien de drôle. Comment savait-elle quand il fallait rire et rire de quoi? Guinika achetait une robe pour une réception donnée par les avocats chez lesquels elle faisait un stage. « Tu as besoin d'acheter certaines choses, Ifem. » « Je ne dépenserai pas 10 kobos de mon argent à moins d'y être obligée. »« 10 cents. »« 10 cents. »« Je peux te donner une veste, des draps et des couvertures, mais au minimum, tu as besoin de collants. Le froid arrive. »« Je me débrouillerai, » dit Ifemelu. Et elle y arriverait. Si besoin était, elle porterait tous ses vêtements à la fois, plusieurs épaisseurs, jusqu'à ce qu'elle trouve du travail. Elle était terrifiée à l'idée de dépenser. « Ifem, je paierai pour toi. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. »« J'en gagne quand même un peu. » J'espère vraiment trouver un emploi bientôt.
Tu vas en trouver un, ne t'en fais pas.
Je comprends pas comment quelqu'un pourra croire que je suis une gosie au conco. Ne leur montre pas le permis de conduire quand tu te présentes à un entretien. Seulement la carte de sécurité sociale. Peut-être ne la demanderont-ils même pas. Parfois, ils ne réclament rien pour des petits boulots.
Guinika la précéda dans une boutique de vêtements dont l'ambiance lui parut trop fébrile. On eût dit une boîte de nuit avec sa musique disco, l'intérieur plongé dans la pénombre, et les vendeuses, deux jeunes femmes aux bras maigres, entièrement vêtues de noir qui parcouraient le magasin d'un pas rapide. L'une avait la peau couleur chocolat, de longs cheveux noirs aux reflets auburn. L'autre était blanche, ses cheveux d'encre flottant derrière elle tandis qu'elle s'avançait vers elle.
« Bonjour, mesdames, comment allez-vous? Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix claire et chantante.
Elle retira des vêtements de leur cintre et déplia ceux qui étaient sur des rayons pour les montrer à Guinika. Ifemelu regardait les prix sur les étiquettes, les convertissant en Eiras, et s'exclamait « Un.
Comment cela peut-il coûter aussi cher ?»
Elle prit certains vêtements et les examina avec attention pour les identifier, car elle n'était pas toujours certaine qu'il s'agisse d'un sous-vêtement, d'un chemisier ou d'une robe.
« Celle-ci vient de rentrer, » dit la vendeuse en désignant une robe scintillante, comme si elle dévoilait un grand secret, et Guinika s'exclama tout excitée « Oh, mon Dieu, c'est vrai !»
Sous la lumière trop crue de la cabine, Guinika essaya la robe, marchant sur la pointe des pieds.
« Je l'adore !»«
Mais elle n'a pas de forme, » dit Ifemelu.
À ses yeux, la robe ressemblait à une housse sur laquelle quelqu'un aurait collé des paillettes au hasard.
« Elle est post-moderne !» dit Guinika.
En voyant Guinika se pavaner devant le miroir, Ifemelu se demanda si elle aussi en arriverait à partager le goût de son amie pour les robes sans forme, si telle était l'influence de l'Amérique. À la sortie, la caissière blonde demanda
« Quelqu'un s'est occupé de vous ?»«
Oui, » dit Guinika.
Chelsea ou Jennifer ?
Désolée, je ne me souviens pas de son nom.
Guinika regarda autour d'elle à la recherche de sa vendeuse, mais les deux jeunes femmes avaient disparu dans les cabines d'essayage, à l'arrière.
Était-ce celle qui a des cheveux longs ?
Toutes les deux avaient des cheveux longs.
Celle qui a des cheveux bruns ?
Toutes les deux étaient brunes. Guinika sourit, regarda la caissière et la caissière sourit, regarda l'écran de son ordinateur et deux longues secondes s'écoulèrent, avant qu'elle dise d'un ton enjoué
« C'est ok. Je trouverai plus tard et ferai en sorte qu'elle touche sa commission. »
Comme elle sortait du magasin, Ifemelu dit
« J'attendais qu'elle demande si c'était celle qui avait deux yeux ou celle qui avait deux jambes. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement demandé « Était-ce la fille noire ou la blanche ?»
Guinika rit
« Parce que nous sommes en Amérique, on est supposé ne pas remarquer certaines choses. »
Guinika proposa à Ifemelu d'habiter chez elle pour économiser le loyer, mais son appartement était trop éloigné, au bout de la Main Line, et le train qu'elle aurait dû prendre tous les jours pour se rendre à Philadelphie aurait été trop coûteux. Elles visitèrent ensemble des appartements dans West Philadelphia, et Ifemelu s'étonna à la vue des placards pourris de la cuisine, de la souris qui leur fila entre les jambes dans une chambre vide.
Mon foyer à Nsuka était sale, mais il n'y avait pas de rats.
C'est une souris, dit Guinika. Ifemelu était prête à signer un bail, si vivre avec des souris lui permettait de faire des économies, pourquoi pas, quand une amie de Guinika leur parla d'une chambre à louer, une excellente affaire pour une étudiante. Elle faisait partie d'un appartement de 4 chambres à la moquette moisie, au-dessus d'une pizzeria dans Powelton Avenue, à l'angle de la rue où les drogués jetaient parfois des pipes à crack, de misérables morceaux de métal tordu qui brillaient au soleil. La chambre d'Ifemelu était la moins chère, la plus petite, face aux murs de briques décrépits de l'immeuble voisin. Des poils de chien traînaient partout. Ses colocataires, Jackie, Elena et Allison, semblaient presque interchangeables. Toutes les trois menues, étroites de hanches, avec des cheveux châtains lisses et plats, comme s'ils avaient été repassés, leurs cannes de crosse entassées dans le petit couloir. Le chien d'Elena se promenait où bon lui semblait, un grand chien noir semblable à un âne à longs poils. De temps en temps, une crotte apparaissait en bas de l'escalier et Elena hurlait
Tu vas avoir de sérieux ennuis, mon coco. »
Comme si elle jouait la comédie à l'intention de ses camarades, récitant un texte dont tout le monde connaissait chaque ligne. Ifemelu aurait préféré que le chien restât à l'extérieur, où sont censés demeurer les chiens. Quand Elena, au bout d'une semaine, lui demanda pourquoi elle n'avait pas caressé le chien, ni même gratté sa tête depuis son arrivée, elle répondit « Je n'aime pas les chiens. »
« C'est une question de culture ?»«
Que veux-tu dire ?»«
Je veux dire, par exemple, que les Chinois mangent du chat et du chien. » »«
Mon petit ami au pays aime beaucoup les chiens. »« Pas moi. » »«
Ah !»
dit Elena. Et elle regarda Ifemelu le front plissé, comme l'avaient dévisagé Jackie et Allison le jour où elle avait dit qu'elle n'était jamais allée dans un bowling, se demandant sans doute comment un être humain normal pouvait n'avoir jamais mis les pieds dans un bowling. Ifemelu se trouvait à la périphérie de sa propre vie, partageant un réfrigérateur et des toilettes, une intimité superficielle avec des personnes qu'elle ne connaissait pas, qui vivait dans l'exclamation perpétuelle.
« Génial !»
disait-elle.
« Super génial !»
qui ne se frottait pas sous la douche. Leur shampoing, leur gel et leur démêlant traînaient partout dans la salle de bain, mais il n'y avait pas une seule éponge, et c'est à cause de ça, de l'absence d'éponge, qu'elle se sentait si éloignée d'elle. Un de ses souvenirs les plus anciens était l'image de sa mère, un seau d'eau entre elles dans la salle de bain, disant «
Ngwa, frotte bien entre tes jambes, bien fort !»
Et Ifemelu avait utilisé avec un peu trop de vigueur le gant de toilette pour montrer à sa mère qu'elle savait bien se nettoyer, et pendant quelques jours ensuite, elle avait marché les jambes écartées. Il y avait quelque chose d'inconditionnel dans l'existence de ses colocataires, une certitude préétablie qui la fascinait. Elle disait « Allons en acheter », s'agissant de tout ce dont elles avaient besoin. Bière, pizza, ailes de poulet frites, alcool, comme si cette décision ne nécessitait pas d'argent. Elle était habituée chez elle à ce que les gens demandent d'abord « Avez-vous de l'argent ?» avant de prendre cette initiative. Elle laissait les cartons de pizza sur la table, ne rangeait pas la cuisine pendant des jours, et durant les week-ends, leurs amis se réunissaient dans le living room et il y avait des packs de bière entreposés dans le réfrigérateur et des traces d'urine sur le siège des toilettes.
« Nous allons à une fête. Viens avec nous, ça va être amusant. »
dit Jackie, et Ifemelu enfila son pantalon étroit et un dos nu emprunté à Guinica.
« Vous ne vous habillez pas ?»
demanda-t-elle à ses camarades en les voyant partir vêtus de jeans informes. Et Jackie répondit
« Nous sommes habillés. Qu'est-ce que tu racontes ?»
avec un rire suggérant qu'elle se conduisait une fois de plus comme une étrangère. Elles se rendirent dans une association d'étudiants dans Chestnut Street, où tout le monde buvait du punch vodka dans des gobelets en plastique, jusqu'au moment où Ifemelu comprit qu'on ne danserait pas. Faire une fête dans ce pays consistait à rester debout et à boire. Tous en fringues élimées, polo avachi, les étudiants avaient l'air de porter des vêtements volontairement usés. Des années plus tard, on lirait dans un post de son blog « S'agissant de l'habillement, la culture américaine est à ce point satisfaite d'elle-même qu'elle ne se contente pas de négliger la bienséance de l'apparence, mais à transformer cette négligence en qualité. Nous sommes trop supérieurs, occupés, sympas, sans complexe, pour nous préoccuper de l'apparence que nous offrons aux autres. Et c'est pourquoi nous pouvons porter un pyjama à l'école ou des sous-vêtements dans un supermarché. » De plus en plus ivres, certains s'affalèrent sur le sol et d'autres s'armèrent de feutres et se mirent à écrire à même la peau de ceux qui étaient par terre. « Suce-moi, vive les Sixers. »
« Jackie dit que tu viens d'Afrique ?» lui demanda un garçon coiffé d'une casquette de baseball.
« Oui ?»«
C'est vraiment cool, » dit-il. Et Ifemelu se promit de raconter la scène à Obinze, se figurant la manière dont elle imiterait le garçon. Obinze extrayait d'elle la moindre bribe d'histoire, réclamait des détails, posait des questions, et il riait parfois, son rire résonnant dans le téléphone. Elle lui avait raconté comment Allison lui avait dit « Hé, nous allons manger un morceau, viens avec nous !» Et elle avait cru qu'il s'agissait d'une invitation et que, comme chez eux, Allison ou l'une des autres filles lui paierait son repas. Mais quand la serveuse apporta l'addition, Allison s'était mise à calculer avec soin combien chacune d'entre elles avait commandé de boissons, qui avait pris la salade de poulpe en hors-d'œuvre, pour s'assurer que personne ne paierait la part de l'autre. Obinze avait trouvé cela très drôle et conclu « Tu commences à comprendre l'Amérique ?» Mais ce n'est que rétrospectivement qu'elle avait trouvé ça drôle. Elle s'était efforcée de dissimuler sa stupéfaction devant les limites de l'hospitalité et son étonnement devant toutes ces histoires de pourboire payant plus 15 ou 20% de l'addition à la serveuse, qui ressemblait fortement à de la corruption, un système très efficace de corruption forcée.